de route.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. La rétrospective de votre actualité de la semaine. Alors bien sûr, présidentielle, on va en parler. Mais avant tout, cette info, cette décision qui est tombée cette semaine et qui fait jurisprudence dans toutes les entreprises de France. Une entreprise peut désormais interdire le port de signes religieux visibles. Décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Pour qui ce n'est pas une discrimination directe d'agir ainsi. Les employeurs peuvent interdire au personnel le port de symboles religieux, politiques, philosophiques visibles. Décision qui est une première en la matière, qui portait en l'espèce sur le cas de deux femmes portant le foulard islamique au travail. Cette semaine, on a eu aussi la suite des affaires de moteurs diesel truqués, avec désormais le constructeur Renault pointé du doigt très clairement par la répression des fraudes, qui affirme que ça fait 25 ans que Renault triche. Des stratégies frauduleuses ont été mises en place chez le constructeur depuis un quart de siècle pour fausser les tests d'homologation de certains moteurs diesel et essence afin de les faire passer les tests anti-pollution. Renault oppose un démenti formel, affaire à suivre. À propos de voitures, notez que la prévention routière a écrit aux candidats à l'élection présidentielle pour leur demander de mettre en œuvre 6 mesures quand ils seront élus, notamment l'obligation d'un anti-démarrage pour les conducteurs qui auraient bu. Installation obligatoire des éthylotests anti-démarrage sur les voitures neuves. La prévention routière qui demande aussi la déconnexion obligatoire du portable pour les salariés au volant. Alors les candidats à l'élection présidentielle n'ont pas encore répondu sur ce sujet. Candidats qui restent stables dans les intentions de vote, malgré les révélations qui continuent de s'enfiler pour François Fillon. Son socle reste solide, entre 18 et 20% selon les instituts de sondage. Parfois même, il remonte un peu. Il ne faiblit donc pas. Marine Le Pen, elle, progresse tout doucement vers les 30%, tandis que Emmanuel Macron reste stable. Emmanuel Macron qui devrait maintenant voir pas mal de ralliements de caciques du PS. Emmanuel Macron, s'il n'est pas élu à l'Élysée, aura au moins réussi le projet qui était celui de François Hollande, qui était donc de métamorphoser le PS. C'est en train de se faire au forceps. Présidentielle toujours, délicieuse passe d'armes, sans doute la plus belle depuis le début de cette campagne, entre Alain Duhamel, le commentateur politique, et Michèle Alliot-Marie, candidate à la présidentielle, qui n'a pas eu le nombre de parrainages suffisant. Alain Duhamel affirmait cette semaine que Michèle Alliot-Marie est un musée politique, la France d'il y a 30 ans. Réponse de MAM, Edgar Garfort, dont j'étais jeune collaboratrice, m'a dit le plaisir qu'il avait eu à participer à votre émission sur l'ORTF. Évidemment, là, on parle d'une toute autre époque. Une toute autre époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, et il leur a rendu hommage, Donald Trump, aux réseaux sociaux et à son préféré, Twitter. Il a expliqué cette semaine, le président américain, que je ne serais peut-être pas là sans Twitter. S'adressant directement aux Américains, il explique que lorsque je dis des choses, la presse ne les couvre pas de manière correcte. Twitter est quelque chose de formidable pour moi, car je peux faire passer mon message. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est pile dans 5 semaines.
La météo de votre région sur RVE.
Voilà, c'était la rétrospective de l'actualité de la semaine. Pardon. La météo, je vais y arriver beaucoup mieux. La météo aujourd'hui, c'est nuageux avec quelques éclaircies dans l'après-midi, des rafales de vent à plus de 40-45 km/h et des températures qui atteindront les 13 à 14 degrés en début d'après-midi.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour encore une heure de sport. Tous azimuts, on reviendra sur le 15 de France et sa difficile victoire à l'issue du match le plus long de l'histoire du ballon ovale, avec Christian Rieu, 20 à 18, une équipe de France donc qui finit à un bilan moyen. On en reparlera avec Christian dans la deuxième partie de cette émission. Et puis on va perpétuer une tradition, puisqu'on va commencer avec Gaël Barbotin, maire adjoint chargé des sports de la ville de Rambouillet. pour parler un peu, faire un petit peu le point sur la vie sportive rambolitaine, comme on le fait assez souvent. Gaël, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Voilà, donc c'est une habitude qu'on a prise, donc on va perpétuer cette habitude.
Très bien, tout cas moi je suis très heureux de pouvoir être présent aujourd'hui et justement d'avoir cette opportunité de faire le point sur l'activité sportive locale et sur peut-être sur certains projets, en tout cas les idées de Mandepark sur Rambouillet.
Oui, je sais qu'il y a pas mal de beaux projets. Voilà, accompagné naturellement de Jean-Loup Perrault, le directeur des sports de cette ville de Rambouillet. Jean-Loup, bonjour.
Bonjour Philippe.
Ça va, tout plein de projets aussi hein.
Pareil d'ailleurs, Gaël va nous les dévoiler effectivement dans quelques instants.
Très bien, alors Gaël, question simple, question bateau, comment va le sport sur Rambouillet?
Le sport sur Rambouillet va très bien, se porte très très bien. Bien évidemment, on enregistre et on aura l'occasion d'en reparler certainement des difficultés en termes d'organisation, parce que nous vivons une période qui est une période compliquée, notamment sur le plan sécurité, mais pas que. Il y a à la fois la dimension sécurité et la dimension financière, budgétaire, qui impacte aujourd'hui l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble des rambolitains aussi en particulier, et pour lesquels il est toujours important de faire la part des choses entre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est difficile et jusqu'où on doit pouvoir aller pour que, à la fois, cette espèce d'alchimie entre la contrainte budgétaire, à la fois la contrainte de la sécurité et l'envie de pouvoir participer à des événements, qu'ils soient modestes ou parfois de beaucoup plus grande importance, eh bien nous impactent dans la prise de décision. Et parfois, c'est un peu compliqué. Je le reconnais humblement. On a de temps en temps ces difficultés à appréhender un environnement qui aujourd'hui est en train de se poser, pour lesquels on prend nos marques et qui font que il suffit de voir ce qui s'est passé encore hier sur Orly. Je dirais qu'on est à l'abri de rien. On est en permanence, même si d'aucuns pensent que finalement la menace tombe, et bien malgré tout la menace est toujours présente et certaines mesures qui sont des mesures, on va dire coercitives en matière de sécurité ont été mises en place à l'échelon national. Et bien de notre côté, nous avons pour mission, élus, pour responsabilité, comme devoir, j'irais presque jusqu'à dire, c'est pas presque, c'est carrément comme devoir, nous avons cette nécessité d'intégrer dans nos réflexions la dimension de la sécurité.
Alors d'abord, au niveau de la pratique sportive, tout va bien. Rambouillet est une ville dynamique, sportive, au niveau de ses associations.
Ah oui, mais je crois que tout le monde se souvient que nous avons été ville la plus sportive 2010, et par deux fois.
Et c'est un label qui reste à vie en plus.
Nous pouvons l'exploiter pendant 20 ans. Le label reste, évidemment. On peut l'exploiter, je dirais, sur l'ensemble de nos documents pendant une vingtaine, pendant 20 ans. Et on a la possibilité, à partir de là, justement, de démontrer auprès du grand public, auprès de nos partenaires, eh bien que, notamment sur Rambouillet, nous avons un fort potentiel au niveau du sport. Pour une ville qui plus est, une ville de 27 000 habitants à peu près, je dirais, l'INSEE nous a diminué la population d'environ 400 habitants en deux ans, mais ça c'est des méthodes de calcul, mais nous sommes environ 27 000. Et pour 27 000 habitants, nous avons ce qui est quand même extraordinaire quand j'en parle autour de moi, c'est perçu comme tel, 10 000 adhérents. 10 000 adhérents qui pratiquent de manière régulière un sport, qu'il soit de loisir ou de compétition, et en tout cas qui sont complètement impliqués dans la vie associative, et dans cet état d'esprit particulier qui, pour moi, je m'en souviens, il y a maintenant 8 ans, quand Monsieur Larcher m'avait demandé d'assumer cette délégation au sport, qui était la chose première, c'était quel état d'esprit donner au sport sur Rambouillet, comment mettre en place une dynamique qui permette à un moment donné à chacun de se sentir impliqué, quel que soit le sport. J'ai le souvenir de certains qui faisaient, on va dire, une forme d'ostracisme. Il y avait les sports et ceux qui n'étaient pas les sports, pourtant reconnus comme tels. Mais non, le sport, c'est avant tout un état d'esprit lié et associé à la compétition. On en parlait avec Christian tout de suite, justement, par rapport au rugby, sur la notion de les matchs qui sont porteurs de valeurs, qui sont porteurs d'un état d'esprit, je dirais, conquérant, mais dans le bon sens du terme, où la compétition suit les règles. Et ça, c'est quand même des points importants. Et en tout cas, c'est ce que nous, sur Rambouillet, avec Marc Robert, en tant que maire de Rambouillet, avec l'ensemble de l'équipe municipale, en tout cas, nous cherchons à développer, à faire en sorte que règne la volonté de s'impliquer à la fois dans la pratique du sport, mais dans la capacité à mettre en œuvre des activités sportives. Je crois qu'il faut, il faut jamais oublier qu'il y a les deux facettes qui sont à prendre en compte.
Est-ce qu'il y a de la demande pour l'arrivée de d'autres sports sur Rambouillet ? Jean-Loup, il y a des sections qui viennent vous voir en disant, tiens, je voudrais créer telle ou telle section.
Oui, oui, il y en a, évidemment, il y en a. Alors, nous ne pouvons pas donner, nous ne pouvons pas donner à chacun un blanc-seing, bien évidemment, parce que ce qu'il en est en ce qui concerne le sport, je le disais tout de suite, hein, c'est avant tout ce pourquoi nous nous battons quelque part, ce que nous recherchons au niveau du conseil municipal, en tout cas en ce qui me concerne dans le cadre de cette délégation au sport, c'est à faire en sorte qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une forme d'équilibre entre l'ensemble des sports et que chacun se sente impliqué dans ce qu'il va mettre en œuvre. Rajouter, pourquoi pas un sport ? Oui, très bien. Rajouter un sport parce qu'à un moment donné, on a senti qu'il y avait une niche, je vais quasiment dire commerciale, qui va permettre à certains, pourquoi pas ? Mais ça, à ce moment-là, on n'est plus dans la même dynamique. On est dans une dynamique qui est respectable, mais qui, en tout cas, sort du champ d'investigation, du tissu et de la volonté, je dirais, de développement de l'activité sportive au sein d'un tissu associatif cohérent, dynamique, volontaire, et sur lequel le bénévolat a, pour moi, je dirais, toutes ses lettres de noblesse. Et ce sont ces lettres de noblesse qui font qu'aujourd'hui, en tout cas en ce qui nous concerne, au niveau du service des sports, au niveau de l'ensemble des personnels qui sont aussi rattachés au pôle convivialité, puisqu'on a restructuré notre organisation, eh bien c'est en tout cas ce que nous cherchons à défendre et à valoriser, et c'est ce que nous accompagnons en tout cas sur Rambouillet.
Au niveau infrastructure, il y aura des améliorations ou on est bon, on est parfait,
ça, c'est
on est
très très, très très bonne question.
Oui.
Pourquoi ?
Je suis là pour ça. Hein.
Pourquoi ? Ben oui. Merci de cette bonne question. Voilà. Mon cher Philippe, tout simplement, oui, sur Rambouillet, en fait, on a engagé, il y a maintenant 8 ans, avec, en parallèle avec la création du service des sports, je dirais l'un n'allait pas sans l'autre, une mise à niveau de l'ensemble de nos infrastructures sportives. Rambouillet a évolué, je dirais, dans les années précédentes, avec la création de sites important, le Racinet, la confirmation du site du Vieux Moulin, des terrains de proximité. Donc il y a eu des créations de sites. Au fur et à mesure où ces sites se sont créés, il y a 8 ans, la question s'est posée de savoir ce que nous voulions, à quel niveau nous voulions arriver pour pouvoir faire en sorte que la pratique sportive, justement, soit puisse trouver toute sa place. Et pour ça, il nous a fallu engager une politique spécifique de réaménagement, de revalorisation au sens noble du terme, donner de la valeur, c'est-à-dire de l'importance à nos sites. Et pour ça, nous avons engagé toute une politique d'investissement extrêmement fort qui s'est chiffrée, c'est vrai, avec je dirais des compteurs à plusieurs zéros derrière le 1 du million. Donc on est à plusieurs millions d'euros, je dirais, d'investissement en 8 ans sur les terrains sportifs, que ce soit les aires de grand jeu. Il vous a pas échappé que nous avons aujourd'hui des terrains qui font envie à l'extérieur, pour
le
nous,
foot, c'est le rugby, hein,
le foot, voilà. Le terrain de foot, voilà. Le terrain de rugby, alors voilà. Que ce soit en herbe, que ce soit que ce soit en stabilisé, que ce soit en synthétique, on a à partir de là une offre qui est extrêmement qualitative et qui fait que on se retrouve aujourd'hui avec ce que nous n'avions pas auparavant, c'est-à-dire que nos clubs étaient dans la peine d'inviter ici sur Rambouillet des équipes pour disputer des tournois, disputer des matchs. Aujourd'hui, quelque part, faut presque freiner la demande, parce que Rambouillet était considéré, il y a encore quelques années, comme étant une ville éloignée. C'était le bout du monde par rapport à l'Île-de-France.
Ouais, c'était la province. Presque.
C'était la province, voilà. On était entouré par les champs, par la forêt, par nos animaux préférés, sont ceux qui remplissent nos campagnes, les chevaux et les chevaux et les vaches. Voilà. Donc on était dans une campagne qui faisait que, là où il y avait une densité d'infrastructures sportives, les clubs qui les occupaient en banlieue, en proche banlieue parisienne, eh bien, avaient du mal à vouloir venir jusqu'à Rambouillet parce que c'était loin. Aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit qu'avec la qualité de nos infrastructures, eh bien, la distance a raccourci et que les clubs qui viennent de plus proche de la capitale, eh bien, n'hésitent pas à vouloir s'intégrer dans notre tissu rambolitain pour disputer leurs matchs et leurs tournois. C'est pour moi un très grand degré de satisfaction parce que ça veut dire que le pari a été réussi et que Rambouillet, en bénéficie, je dirais, dans son image, dans sa volonté, dans sa capacité à pouvoir justement accueillir des extérieurs, à pouvoir faire en sorte qu'une dynamique se crée par rapport à sa population et qu'il y ait donc un enjeu, une réponse à un enjeu majeur qui est celui de notre développement économique. Il y a aussi cette part qui est à prendre en ligne de compte, le lien entre le sport, la culture, donc les activités, le niveau des activités que nous pouvons proposer et le développement de notre territoire en tant que tel, que ce soit sur Rambouillet, mais à l'échelon de la communauté d'agglo et pourquoi pas de l'ensemble de la vallée de Chevreuse aussi, pour aller plus vers l'Essonne et le plateau Audanais, eh bien, le sport est une... est un vecteur majeur de développement économique et il faut que nous y pensions. Voilà, pour le futur, voilà, j'ai là aussi quelques idées, mais ce sera peut-être l'objet d'un autre débat.
Absolument. Alors Gaël, il y a eu quand même beaucoup de peine, beaucoup de chagrin chez certains responsables d'associations sportives de Rambouillet sur des dernières annulations. Hein. On sait que la corrida de Rambouillet a été annulée, c'était dans le cadre du Téléthon. On sait que l'institution, le semi-marathon, a donc été aussi annulée, n'a pas pu avoir lieu. Et puis d'autres manifestations qui ont été donc aussi... reporter. Qu'est-ce que vous répondez à cette, j'allais dire, pas à cette inquiétude, mais à cette tristesse des responsables sportifs en bolitain ?
Eh bien, tu parles de tristesse...
C'est un peu le sentiment qu'on...
Oui, mais hein. Quand tu parles de tristesse, moi je partage ce même sentiment. Ouais. Moi je partage ce même sentiment, c'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, on vit un moment très compliqué. Pour un élu, il n'y a rien de plus difficile que d'être contraint à devoir dire non à de beaux projets. Que de pouvoir mettre des balises telles qu'à un moment donné, il devient plus raisonnable de dire on ne fait pas que on va engager. Et ça, pour un élu, je dirais que tu parles de tristesse, moi je m'associe complètement à ça. C'est un crève-cœur. Je pèse mes mots, c'est un crève-cœur. Quand il faut rencontrer un président d'association qui est engagé depuis un président ou une présidente, on parlera tout à l'heure du sport au féminin, mais quand on s'adresse à un président, qu'on le reçoit, qu'on lui dit écoute, voilà un tel ou un tel, on a des très grosses difficultés à pouvoir suivre l'organisation et la mise en œuvre de ta manifestation, de celle à laquelle tu penses, celle que tu développes depuis plusieurs années, celle pour lesquelles l'ensemble des membres du club sont investis, pour lesquelles il y a tout un tas d'adhérents qui sont prêts à se mobiliser pour la réussite d'un événement majeur qui peut réunir parfois plusieurs milliers de personnes. Eh bien, pour un élu, moi déjà la première chose c'est ce sentiment d'être dans la même difficulté, dans la même tristesse. Alors maintenant c'est une question de, je veux dire, une question de raison. Je le disais tout à l'heure, on n'est pas sorti, je dirais, de la difficulté dans laquelle certains événements qui se sont déroulés tout au long de l'année dernière, qui ont commencé l'année précédente, eh bien oui, l'état d'urgence il n'est pas levé. L'état d'urgence n'est pas levé. J'utilisais un mot qu'on entend. Alors parfois, il est contesté ou non, mais peu importe. En tout cas, il règne autour de nous un climat délétère et un climat tel que il nous faut prendre nos responsabilités. C'est le mot assumer cette responsabilité. Et avec l'ensemble du conseil municipal, avec Marc Robert, avec le service des sports en l'occurrence, avec les services de sécurité, avec les élus chargés de la sécurité sur la ville de Rambouillet, je pense à Alain Cintra, il est toujours difficile de dire on ne va pas pouvoir faire. Je pense à deux manifestations sportives, mais au-delà des manifestations sportives, je vais rappeler qu'il y a eu par exemple, dans le même état d'esprit que par rapport à ce que je viens de donner, par exemple la parade du Père Noël qui n'a pas pu se faire. Oui, oui. Mettre des enfants, 400, 500 enfants, je dirais ensemble, dans une rue en plein cœur de ville, eût été totalement déraisonnable à un moment donné où nous nous retrouvions avec des menaces fortes qui pesaient à la fois sur le territoire et pour lesquelles la ville de Rambouillet, là aussi, a une responsabilité particulière en termes d'attention aux principes de sécurité. Je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet. Néanmoins, je sais qu'il y a deux manifestations sur Rambouillet pour lesquelles, pour moi, c'était d'autant plus compliqué qu'elles ont une popularité, elles répondent à une voilà, à un fort engouement et une forte popularité. C'est notamment le jour du Téléthon, ça a été la corrida, donc oui. Une course de nuit
et puis
de cœur de ville.
La rando aussi qui a été
et la rando annulée. Qui a été annulée. Nous avons aussi le semi-marathon oui. Qui donc qui aurait dû se dérouler là, qui a été supprimé tout simplement parce que en accord avec en accord après en avoir discuté, je veux dire en accord non parce qu'il y a toujours un fond de et j'ai envie quand même de le faire. Mais pour monter une manifestation comme celle-là qui passe par un cœur de ville, les conditions de mise en sécurité sont telles que ça relève de l'impossibilité. Donc il faut penser les choses autrement. Il faut les voir avec un prisme différent. Aujourd'hui, faire des manifestations de masse en cœur de ville devient impossible. Pourquoi ? Parce que nous avons des directives qui nous sont données par l'État pour répondre avec un maximum de sécurité. Ces directives données par l'État nous obligent aujourd'hui, par exemple, à obturer l'ensemble des voies qui peuvent utiliser un parcours au moment où les coureurs, je pense par exemple au semi-marathon, sont en paquet. Donc dans ces cas-là, il aurait fallu, sur la ville de Rambouillet, bloquer l'ensemble des rues qui sont traversées par le semi-marathon, les bloquer avec des véhicules qui peuvent être des véhicules lourds. Je pense, là, je suis allé sur le Paris-Nice, au départ du Paris-Nice, à Rochefort. Il suffisait de voir comment Rochefort avait été transformé en ville blocos.
C'est vrai.
Et oui, mais Rochefort, c'est quoi ? Enfin, toute proportion gardée, on avait 6 rues à bloquer. 6, allez, 7 à Rambouillet, allez, ça se compte par dizaines. Donc, à partir de là, comment mettre en place un dispositif de sécurité suffisant? Ça oblige derrière à avoir ce que nous n'avons pas par rapport à des manifestations telles que celles qui sont d'envergure nationale, et bien des forces de sécurité où il faut mieux les mobiliser aussi aujourd'hui sur leur mission régalienne, ces forces de sécurité. Je reprends ce qui s'est passé à Orly, je reprends ce qui s'est passé au palais du Louvre. Nous avons besoin de forces de sécurité dans des zones d'accueil qui sont, il faut les laisser, excusez-moi l'expression, il faut les garder fraîches. Et donc, à un moment donné, c'est compliqué de les mobiliser sur tous nos événements, notamment quand il y a une densité forte en cœur de ville. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ces manifestations. Ça veut dire qu'il faut les penser autrement. Ça veut dire que le semi-marathon, bien évidemment, je n'ai qu'une envie et qu'un espoir.
Donc c'est que l'année prochaine, 2018, on dit sur notre parcours.
On le met en place à nouveau, mais qu'on le pense en fonction des contraintes de sécurité qui, quand le parcours précédent homologué avait été mis en place, nous n'avions pas les mêmes contraintes. Donc à partir de là, évidemment, l'ensemble des adhérents, j'irais des bénévoles qui sont aujourd'hui à travailler sur un projet comme celui du semi-marathon avec Rambouillet Olympique, avec à la tête son super président, je dirais, qui s'appelle Hervé Joly, qui a repris le flambeau, et je salue Sylvie, et je salue Jean qui ont précédé, qui ont amené à pérenniser l'ensemble de l'activité du club. Eh bien, cette manifestation phare de Rambouillet Olympique, nous allons tout faire pour faire en sorte que, bien évidemment, elle soit pérennisée. Une absence sur une année n'implique pas sa suppression. Alors, parfois, il y a un sentiment d'iniquité ou d'injustice.
Oui, parce qu'en plus, Bullion, il n'y a pas eu Rambouillet.
Bullion, dans un premier temps...
C'est pareil, ils prennent
C'est comme pour le Paris-Nice. Oui. Bullion, ceux qui sont allés à Bullion se sont rendus compte que tout le cœur du village avait été bloqué, avait été interdit de circulation, je dirais, avec des véhicules mis en travers, avec tout un dispositif.
Des tracteurs, je crois.
Il y avait des tracteurs, évidemment. Donc, à partir de là, mettre l'ensemble de tracteurs suffisant sur les rues de Rambouillet, au regard du parcours homologué, je reviens à ça, on aurait pu, du jour au lendemain, je dirais, modifier le parcours en faisant un parcours aux doigts mouillés, etc. Bon, à la limite, on pouvait peut-être trouver une solution, mais dans la mesure où on veut garder, je dirais, la dimension qualificative de ce semi-marathon avec un parcours qui soit reconnu, qui soit validé, bien évidemment, il faut le faire avec toute la sérénité qui s'impose, et pour ça, nous nous mettons à l'ouvrage avec l'ensemble des membres du bureau de Rambouillet Olympique, bien évidemment, sur les je sais que tous les coureurs peuvent compter, évidemment. Et je peux vous dire qu'ils sont les premiers ambassadeurs de la course de fond.
Donc il y aura semi, corrida, ça va en principe.
La corrida,
ne préjugeons pas
des des potentiels. Ouais, ouais. Mais je reprends un exemple.
Et la rando pour le Téléthon.
Oui, mais la corrida. Je vais prendre la corrida. La corrida, c'est une course de nuit. Imaginez la nuit pour pouvoir faire une surveillance. Ce que nous avions imaginé sur la corrida, je peux vous dire que quand moi le projet m'est arrivé, je vous disais, j'étais le premier avec un sourire. Jean-Louis, mon témoin qui est présent, je lui laisse aussi un peu la parole parce que je parle beaucoup. Mais en ce qui concerne la corrida, quand j'ai reçu les promoteurs du projet, je peux vous dire que c'était un enthousiasme en ce qui me concerne. C'était ceux qui me connaissent savent que quand j'ai un projet en face de moi, en plus de ça, qui montre l'originalité, qui montre la capacité de s'investir par rapport en plus à des objectifs qui dépassent la course elle-même. Bon, j'ai les yeux qui se mettent à briller. J'adore ça. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Et c'est ma mission. Je reprends ma mission d'élu. C'est pour ça que j'ai souhaité être élu. C'est pour ça que je me bagarre au quotidien, même parfois avec mes collègues, pour pouvoir faire en sorte que justement certaines choses se mettent en place. La corrida, il y a une particularité, c'est que c'est de nuit. Et quand on l'avait imaginé au départ, on avait même imaginé, vous voyez, éteindre carrément les lumières dans la ville de Rambouillet pour avoir les spaghettis colorés, etc. Voilà. On est dans cette dynamique de créer l'événement, la particularité. Mais en cœur de ville, il faut qu'on repose les bonnes questions. On peut pas sanctuariser et bloquer. Conflans-Sainte-Honorine a mis en place une course un semi-marathon, etc. Alors, mais ouais, pourquoi Conflans-Sainte-Honorine, etc. Eh ben, moi, je vais répondre. Aujourd'hui, Nancy a supprimé son semi-marathon. Rambouillet, on est obligé de le faire. Et Conflans-Sainte-Honorine a même eu, des décisions qui ont été prises d'interdire les habitants sur le parcours de sortir de chez eux. Donc l'objectif était de bloquer parce qu'on était en cœur de ville. Mais est-ce bien raisonnable? Donc mieux vaut envisager, modifier je dirais notre angle d'attaque, modifier notre stratégie de positionnement, faire en sorte qu'on réponde toujours aux grands enjeux qui sont ceux qui sont donnés, qui sont liés à toutes les valeurs du sport, et Dieu sait si elles sont nombreuses, je dirais, à défendre et donc complexes à défendre et à mettre en avant. Mais voilà, donc moi je suis extrêmement confiant pour l'avenir, mais confiant dans la difficulté, mais confiant malgré tout.
Allez, la page de pub, et puis on reparle de tout cela ensuite.
C'est parti! La Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste RGE en menuiserie sur mesure, en partenariat avec les menuiseries Jeannot, lance la fenêtre la plus performante du marché. Une fenêtre 100% innovante, alliant performance thermique et acoustique. 10 points de fermeture de base pour une sécurité maximum et un UW de 1. Pour ce lancement exclusif, bénéficiez de 20% de remise jusqu'au 8 avril 2017 pour le remplacement de vos fenêtres. Les devis sont toujours gratuits et le crédit d'impôt toujours d'actualité. Alors n'hésitez plus et contactez la Bassienne de Menuiserie au 01 34 85 87 32. À Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom au 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Dis donc, tu as quelque chose de prévu mardi?
Ben non, pourquoi?
Mardi, c'est mon jour shopping au Bel Air.
Ah bon?
Oui, tous les mardis, tu peux gagner le remboursement de tes achats dans les boutiques du centre commercial et au Carrefour.
Pas mal du tout, ça. Ça vaut la peine de changer le jour de ses courses. Et comment ça marche?
Ben viens, je t'emmène et je t'expliquerai en route.
De gagnant chaque mardi sur tirage au sort. Détails de l'opération dans votre centre commercial Bel Air, route nationale 10, Rambouillet.
Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Se sont Pratiquez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, puis cette émission, bah, vous pourrez la réécouter en podcast. Je voulais juste faire un petit coucou à Bullion qui a organisé une belle soirée hier, un beau concert dans le cadre du Téléthon. Et oui, déjà dans le prochain Téléthon. C'était en tout cas une soirée bien sympa, donc organisée notamment par Monsieur Violent et son équipe. Gaël, pourquoi il y a eu ce Pelec alors?
Je te remercie de me poser la question. Alors, Supélec, c'est Centrale Supélec. C'est une école qui se trouve située, qui est en train de déménager, de s'installer sur le plateau de Saclay. Cette école, cette grande école, a un club en son sein et qui organise des manifestations sportives, notamment une manifestation sportive qui est un raid qui se déroule à la fin du mois d'avril. Et ce raid a pour, je dirais, pour mission de souder l'ensemble des étudiants. Et j'ai des jeunes qui sont venus un jour me voir et qui m'ont dit, voilà, Monsieur Barbotin, on a envie de mettre en place notre prologue, qui s'appelle la Night and Day. Notre prologue, on a envie de le mettre en place, pourquoi pas, sur Rambouillet ou alentour. Alors, bien sûr, la réponse a été la même que pour tout le monde.
Ouais.
C'est oui, pourquoi pas, mais comment peut-on gérer la sécurité? Donc à partir de là, il a fallu prendre en compte et en considération les spécificités de ce prologue qui, pour nous en tout cas, nous impliquait pour une journée complète, avec des différents éléments à prendre en compte. Le premier élément pour mettre en place une manifestation sportive aujourd'hui, c'est la sanctuarisation des lieux. Ce qu'on ne peut pas faire quand on est sur la voie publique avec une manifestation de masse, avec 1000, 2000, 3000 personnes. On est dans un effectif contingenté d'environ 400 personnes qui participent à l'événement et qui, au travers de la nature même de ce prologue, fait qu'il n'y a pas eu de concentration spécifique de sportifs sur le domaine public. Nous avions des gens qui couraient, vous pourriez avoir un week-end, des gens qui vont courir pour faire un jogging, enfin je sais plus si
c'est le terme qu'on utilise, etc. Ouais.
Voilà, même à l'extérieur, dans la forêt, etc. Donc en fait, nous avions là une épreuve qui, au regard des contraintes de sécurité, pouvait répondre aux contraintes qui nous sont imposées par l'État. Notamment avec un départ, je pense que le départ s'est fait au Petit Moulin, dans la vallée de Chevreuse. Et ce départ s'est fait échelonné. C'est-à-dire que vous aviez un quart qui arrivait et par petits groupes de quatre, eh bien, ils partaient tranquillement, je dirais, les uns après les autres pour pouvoir assurer, je dirais, le parcours qu'ils s'étaient donné. Pour arriver sur un site fermé, un site qui était celui donc du Racinet, sur lequel, quand il y a une manifestation sportive, on n'interdit pas la possibilité d'avoir une manifestation sportive sur le Racinet. Et pour pouvoir par grappe aussi, je dirais, de manière échelonnée, après aller sur le parc du Château, qui lui aussi était fermé, contingenté, je dirais, au moment où il y avait des grands moments de rassemblement restaient, somme toute, relativement modérés, puisqu'il y avait toujours à la fois des coureurs sur les parcours, et les moments de rassemblement faisaient que les équipes qui se retrouvaient ponctuellement avant de repartir, je dirais, pour la suite du parcours. Donc on est dans une nature de course qui, sur le domaine public, ne générait pas de concentration et qui, sur les moments de concentration, répondait aux contraintes qui nous sont demandées par l'État, qui sont celles d'être dans des zones qui sont contingentées, qui sont fermées, qui sont et donc que nous pouvons surveiller. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons une partie de nos installations que nous avons pu mettre à disposition, tout simplement parce qu'on a répondu on pouvait répondre en matière de sécurité. Maintenant, je le disais tout à l'heure, pour nous c'est important d'avoir aussi des ouvertures sur l'extérieur, dans la mesure où justement les contraintes de sécurité sont mises en place, je dirais faire découvrir ce qui se passe sur Rambouillet pour demain par rapport à ces jeunes qui vont vivre enfermés sur le plateau de Saclay, je dirais, leurs études, et bien de savoir qu'à proximité, à 15, 20, 25, 30 kilomètres, Eh bien, ils peuvent même venir en vélo jusqu'à Rambouillet, parce que c'est possible. Ils vont même pouvoir venir en car, puisque j'irai au niveau de la région. J'ai là, c'est j'irai ma casquette régionale, où on a défendu la mise en place d'une ligne spécifique entre Saclay et Rambouillet. Eh bien, va faire que à un moment donné, Rambouillet, Saclay, en tout cas moi je l'appelle de mes voeux, eh bien on aura une possibilité, je dirais, de d'interférence, d'avoir la possibilité de faire fonctionner ensemble les choses. Donc, comme pour toutes les manifestations sportives, ma première préoccupation, je dis bien ma première préoccupation, c'est de trouver la mise, comment dire, les conditions de mise en œuvre d'une manifestation sportive. Si on peut répondre positivement, on y va, on avance. Si jamais on peut pas, ou si jamais la barre est vraiment trop haute, à partir de ce moment-là, on limite. Mais on est vraiment dans des processus, puisque c'est souvent le terme qui était utilisé, un processus d'équité. Voilà, certes, c'était extérieur, c'est des gens extérieurs qui sont venus sur Rambouillet, mais qui ont découvert en même temps notre région. Je peux vous dire que demain, en tout cas, moi j'en espère, je l'appelle de mes voeux, eh bien, sur Rambouillet, ce seront des sportifs qui viendront, je l'espère, s'impliquer aussi dans notre tissu associatif.
Donc, il y aura bien aussi, du coup, le 23 avril, la Rambouillet Sport.
Pourquoi ?
Comme c'est confiné, voilà, il n'y a pas
pourquoi
problème.
On est dans un lieu qui peut être contrôlable. Dans un lieu qui peut être contrôlable. Ça va se dérouler à l'intérieur du parc du château. À partir du moment où on est dans le parc du château, si jamais il y a des intrusions qui se déroulent à l'intérieur de ce parc du château, elles peuvent être visibles, elles peuvent être... Et si jamais on se retrouve avec des véhicules, ne serait-ce qu'on est en train de mettre en place un dispositif de sécurité que je ne vais pas dévoiler, mais nécessairement, mais avec l'ensemble des, je dirais, des responsables associatifs, donc de Rambouillet Sport, avec Ludovic Dilmy, on est en train de mettre en place, on a monté, on a bâti, on a structurer, je dirais, une action de mise en sécurité de l'ensemble de la course, pour que ceux qui courent, que ceux qui peuvent, qui ont envie de venir voir, qui ont envie de comprendre comment ça se passe, eh bien puissent venir avec ce sentiment de sécurité qu'ils vont pouvoir courir, non pas parce qu'ils veulent échapper à un danger, mais tout simplement parce qu'ils ont envie de vivre leur sport. Et c'est ça qui est important. Et c'est à ça que nous devons répondre, et c'est notre, c'est un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, j'utilise pas forcément de manière régulière parce qu'il a son importance, c'est notre responsabilité d'assurer cette sécurité pour que les courses se fassent dans la meilleure, dans les meilleures dispositions possibles. La Rambouillet Sport va pouvoir répondre à ça. L'année prochaine, l'OSMI Marathon de Rambouillet pourra répondre à ça. On est en train de monter le dispositif, etc., etc. On espère pouvoir, alors à partir de là, sur Rambouillet, de temps en temps, il y a des grandes manifestations qui se mettent en place.
C'est une question que j'allais poser,
et
ça va pouvoir enchaîner
sur
peut-être d'autres années, Paris 2023, Paris 2024, les Jeux Olympiques,
plus loin.
Et puis peut-être
tu me pousses encore
le Tour
plus
de
loin.
France à nouveau.
Voilà, alors moi j'ai des vœux, j'ai des souhaits.
Oui. Mais ça on en reparlera.
On aura l'occasion d'en reparler, en tout cas si tu veux bien, parce que pour moi, c'est on ne fait pas vivre un territoire si on lui donne pas les projets. On ne donne pas une dynamique à des, je dirais, à des habitants, à une population, si à un moment donné, ça ne s'inscrit pas dans une prospective qui est encourageante. Si on n'a pas de perspective, si on a un mur devant soi, à partir de ce moment-là, je dirais que, c'est la fin, quoi, quelque part. Donc, moi, mon ambition, ma volonté, celle dans laquelle je m'inscris de manière pérenne, permanente, c'est à chaque fois qu'il est possible, c'est de donner une opportunité à chacun de s'exprimer sur le territoire. En tout cas, moi, c'est celui que je mets en place. Alors, maintenant, oui, Tour de France. Tour de France, j'ai rencontré Christian Prudhomme au Paris-Nice 2014. Vous souvenez-vous, nous avons mis en place le Tour de France, un départ en 2012. Et Christian Prudhomme, sur la ligne de départ, a baissé sa vitre et me dit, écoute Gaël, un jour, on reviendra à Rambouillet, j'ai eu l'occasion de le recroiser. Et le jour où j'ai recroisé, c'est lui qui m'a proposé une certaine année que je vais, pour l'instant, préserver.
On ne le dira pas,
parce que je ne veux pas créer la compétition. Ah ouais. Mais en tout cas, je sais, Christian Prudhomme, je peux compter sur... Enfin, nous pouvons, au niveau du territoire, compter sur la possibilité de faire repasser, je dirais, cet événement magnifique qu'est le Tour de France et qui a ce côté populaire et de proximité que n'ont peut-être aucun sport de grande envergure. En tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux. Et puis, il y aura Paris 2024. Et là aussi, avec le conseil régional, je mets un peu la pression, mais bon, on est quand même en grande ceinture. Si on peut expliquer ça comme ça, je dirais, par rapport à la capacité de mise en œuvre. Mais en tout cas, je sais que sur Rambouillet, on a des potentiels et je vais faire fort de pouvoir le défendre jusqu'au bout.
Et puis, il y aura, auparavant, on va rendre hommage aux filles, aux femmes, à travers le sport, Jean-Loup. Hein,
Oui, dans le cadre de Sport en Fête. Donc, Sport en Fête, maintenant, on connaît un petit peu le principe. Tous les ans, effectivement, on organise une journée dédiée aux sportifs, avec le matin une conférence autour d'un thème d'actualité. Comme tu le disais, Philippe, il y a eu Paris 2024, il y a eu le sport et le handicap, il y a eu sport et environnement, etc. Et puis cette année, le thème qui a été retenu et qui s'est présenté donc aux participants, les participants en plus qui se dans la liste s'allonge, parce que on a eu les acteurs du monde sportif rambolitain. L'année dernière, le maire de Rambouillet, Marc Robert, et Gaël ont souhaité convier également les élus du territoire, et puis ça sera reconduit cette année. Et donc le thème, ça va être le sport et la femme. Mmh. Ou la femme et le sport, et notamment, on va partir d'un constat, c'est que les femmes aujourd'hui dans la pratique sportive sont sous-représentées et sont de moins en moins représentées, puisque on constate une baisse de fréquentation pour des raisons, économiques, et puis les femmes sont également sous-représentées dans les instances fédérales. Mmh. Hein, puisque aujourd'hui, sur le plan fédéral, des présidences, il n'y a qu'une seule femme, c'est Isabelle Lamour, en escrime, qui est la présidente de la fédération. Donc, d'une part, on partira de ce bilan, et puis on essaiera de comprendre pourquoi, et puis surtout de pouvoir présenter les mesures pour espérer que les femmes retrouvent une place, qui leur revient, plus importante, soit au niveau de la pratique, soit au niveau des instances fédérales.
Voilà, donc ça prouve que, pour finir, il va se passer tout plein de choses sur Rambouillet en matière de sport dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Juste le mot de la fin, Gaël, pour Tibéri.
Oui, je crois que pour répondre à ta toute première question de savoir si nous étions un territoire où le sport avait ses lettres de noblesse, eh bien oui, évidemment, elle a ses lettres de noblesse et il a les lettres de noblesse et nous allons tout faire avec l'ensemble des instances qui sont concernées par le sport, avec l'ensemble du tissu associatif, avec l'ensemble des bénévoles, avec bien évidemment la radio RVE en tant qu'accompagnateur, on l'oublie parce qu'on est au sein même de leur palace. En tout cas, un grand merci à tous, et puis bien évidemment, que vive le sport sur Rambouillet et sur l'ensemble de notre territoire.
Très bien, comme ça on peut enchaîner sur la musique et après faire le bilan du tournoi destination avec notre ami Christian Rieu. Allez, on y va, la pause musicale et la pub auparavant.
Hello les amis, je viens de me faire plaisir à la boutique Bellamy à Rambouillet. J'y trouvais déjà des looks sympas, avec barbour et un éventail de chemises pour toutes les circonstances. Et pour ce printemps, je viens de m'offrir un total look Tommy Hilfiger. C'est un bon sportswear, c'est de bonne facture, c'est pour vous aussi, j'en suis sûr. Une offre élargie de la marque Tommy Hilfiger, ça vaut le détour à la boutique Bellamy. Un centre de la guirlande de Julie, à Rambouillet.
En centre-ville à Rambouillet, 95 rue du Général de Gaulle, votre traiteur traditionnel au carré d'or et son chef, un restaurateur de la région, vous propose ses entrées et ses plats garnis cuisinés à emporter à 9,60€ sur plats décorés et bouquetières de légumes et ses plats prêts à mettre au four à 12,50€ sur commande. Le carré d'or, c'est aussi son foie gras de canard maison, son saumon d'Écosse label rouge fumé, ses bouchées à la reine à l'ancienne, ses noix de Saint-Jacques au champagne et ses desserts maison. Alors pour vos repas de famille, vos baptêmes, communions, fiançailles, anniversaire et repas de mariage, entre amis ou en entreprise, le Carré d'Or, 95 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, 01 34 57 34 40 et sur www.carré-d'or-traiteur.fr. Fermez le lundi. Pour votre santé, bougez plus.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loire Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
Pratiquez le sport dans votre région avec RVE.
Bon, on va faire un petit peu le point sur le bilan du tournoi destination. Christian, si je dis que l'équipe de France a fait un tournoi assez mitigé, c'est l'impression qu'il en ressort. Troisième cette année, bon, c'était pas arrivé depuis de très nombreuses années. La meilleure place était deuxième, donc en 2011. Mais on a le sentiment qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé d'un iota sous l'ère Noves.
Voilà. On peut observer les résultats de l'équipe de France par le petit bout de la lorgnette ou par le macroscope. Alors, il faut dire une chose, depuis Lièvre-Mont, depuis déjà 2010-2011, les résultats de l'équipe de France étaient...
Depuis la finale de Coupe du Monde, quoi, dirons-nous.
Depuis voilà. La finale de Coupe du Monde.
Lièvre-Mont est parti sur la finale, et puis voilà, les résultats
tant
sont...
Tant au niveau de la qualité du jeu pratiqué qu'au niveau des résultats. Bon, l'ère Saint-André n'a fait que confirmer cette dégringolade. Alors, il y a eu l'arrivée de Noves, avec de nouvelles méthodes, de nouveaux principes de jeu, un nouveau staff, nouvelle
équipe,
de nouveaux joueurs, bon, etc. Et il y a eu une préparation particulière avec les matchs du contre les équipes du Sud, Argentine au départ, Nouvelle-Zélande, Australie, etc.
Bon, ça n'a pas été des prestations mauvaises, mais il y a eu des fêtes. Ça pas grand-chose, mais...
Des défaites, mais ça a été des matchs préparatoires qui devaient préparer pour ce tournoi destination. Alors, en principe, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il y ait un grand tournoi destination. Bon, on finit à la troisième place. Bon, c'est...
Au golavrage, en plus.
Au golavrage, mais en fait, bon, on finit à la troisième place. C'est un bilan mitigé. Bon, on peut dire tant au niveau du spectacle procuré qu'au niveau des résultats eux-mêmes. Alors, il faut observer deux choses, le fond et la forme. Alors, au niveau du fond, au niveau de la structuration du jeu, de la qualité du jeu pratiqué, on peut dire il y a une certaine cohérence et on aperçoit une méthodologie susceptible de faire avancer, la pratique. Au niveau du résultat, bien sûr, amélioration très nette, puisque quand même, il faut bien rappeler que nous avons accroché l'Angleterre.
Oui, alors on va rappeler, Christian.
Et à Twickenham.
Oui, c'est un match qu'on n'aurait même pas dû perdre contre l'Angleterre. Parce qu'on va rappeler que l'Angleterre s'est imposée 19-16 et vraiment sur la fin.
Voilà.
Après, pour les autres résultats, on a battu l'Écosse 22-16. Bon, là, on a fait notre. Bon, le match était. L'équipe de France n'avait pas joué très bien, mais enfin, elle a quand même battu physiquement cette équipe écossaise. Ensuite, peut-être le plus mauvais match, c'est l'Irlande, battu 19-9.
L'Irlande, on a été pris un peu sur la furia irlandaise, et ce n'est jamais dit facile d'aller gagner là-bas.
Et puis,
on voit l'Angleterre a perdu hier.
Bien sûr.
Bon, donc, il faut bien nuancer. Cette année, c'était une année difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux déplacements très difficiles.
On est battu là-bas.
À Twickenham, les deux déplacements, on est battu là-bas. Et en Irlande. Bon, donc, c'est les années. Où il est difficile de gagner le tournoi des Six Nations.
Bon, on a mieux fini, on a battu l'Italie, logiquement, la semaine dernière, 40-18, et hier, au finish, le Pays de Galles, 20-18, dans le match le plus long de l'histoire.
Voilà. Mais, alors, nous en revenons au niveau du fond, nette amélioration, mais au niveau de la forme. Alors, au niveau de la forme, on peut se poser des questions, dans la mesure où les audiences du 15 de France sont en berne. Bon, il faut voir que contre l'Écosse, il y avait des vides.
Oui, bon, on gagne, mais bon.
Contre l'Italie, bien, souvent, ce sont des.
En termes difficiles, puis après, bon, on prend le dessus physiquement, mais enfin, bon, c'est classique.
Ce sont des tribunes à moitié vides. Oui. Il faut faire battre le rappel pour.
C'est parce que l'équipe de France ne fait plus rêver. De par ses résultats très moyens, l'équipe de France ne fait plus rêver. Il n'y a plus de joueurs charismatiques.
Voilà, le problème de l'équipe de France, c'est que les résultats ne sont plus ce qu'ils étaient. Et les gens se découragent vite. Hein. Quand une équipe perd, bon, en général,
on l'a vu pour le foot aussi,
la maison.
Après, c'est revenu.
Bon, pour le foot, c'est pareil. Hein.
Ah ouais.
Deuxième temps, il n'y a plus de véritable star. Et
il n'y a plus de joueurs qui font rêver. Ouais, ouais.
Les gens de rive, ont besoin de s'identifier à des stars.
Oui, c'est vrai. Rive dans
Michalak,
le passé, Blanco,
Rive,
ouais, Michalak,
bon, etc. Ouais. Et bon, et autres. Plus de stars. Et ensuite, le jeu, la nature du jeu a fait que ce n'est plus un jeu spectaculaire. Où ça manque de mouvement, les défenses sont serrées, etc. Donc, on a un spectacle fait d'affrontements, de collisions, et c'est un peu les auto-tamponneuses. Hein.
Oui.
C'est l'équipe qui a les plus gros joueurs, les plus costauds, entre guillemets, qui a des chances de mener le jeu.
Alors, sauf, on en parlait avec Jean-Loup en off, sauf le match Pays de Galles-Angleterre gagné par les Anglais 21-16, qui a peut-être été ce qu'on a fait de mieux, Jean-Loup, depuis 30 ans dans le rugby, hein, notamment dans le tournoi des Six Nations.
Ah bah,
ça a été
là,
un match
vraiment,
spectaculaire,
ouais.
Meilleur match depuis 20-30 ans. Quoi.
Oui, alors je peux pas juger parce que oui, je suis pas un spécialiste hein, comme Christian du rugby, mais en tout cas ça a été plaisant vrai que bon, bah, de la première seconde jusqu'à la dernière. Dernière minute, ça a été un match captivant hein, et vraiment on a pris plaisir et c'est un peu le rugby comme on aime. Hein,
ouais. Voilà. Mais pour avoir du grand spectacle, il faut aussi des acteurs et des joueurs de très haut niveau. Hein. On n'a pas un orchestre de haute performance sans des musiciens. Bon, alors. Le problème qui se pose en France, le problème, c'est le problème du nombre d'étrangers chaque équipe. Bon, que ce soit dans le top 14, en Pro D2 ou même en Fédéral 1, il y a un nombre d'étrangers qui vient concurrencer les joueurs d'équipe de France et qui vient même mettre en difficulté complètement
la relève, les jeunes ont plus leur place.
La pratique à certains postes. Demi d'ouverture, pilier droit, bon, etc. Il y a certains postes où on n'arrive plus à sélectionner de bons joueurs. Alors, c'est un problème. Autre problème aussi, c'est le problème de l'arbitrage. Alors, on voit les spectateurs siffler, hurler, etc., contre les arbitres anglo-saxons. Mais lorsqu'ils sifflent une faute, la faute est réelle. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas approximatif. Un arbitre... anglo-saxon, lorsqu'il siffle, il y a faute. Mais nous avons pris dans notre championnat de France de mauvaises habitudes. Les arbitres, souvent, laissent accrocher, faire des croche-pattes, des plaquages, un peu à retardement, des bousculades et tout ça. Mais il faut voir qu'on construit sur les habitudes. Si elles sont mauvaises, le résultat de l'équipe de France ne sera pas très bon. Alors après, on s'étonne qu'il y ait des fautes, mais le joueur a fait une faute, bon, ça a coûté 3 points, etc. Mais il faut voir qu'au niveau international, c'est très important. Dès qu'il y a trop de fautes, on perd le match. Bon, alors, problème des fautes. Autre problème aussi, c'est... toujours pour l'équipe de France et le rugby de pratiquant top 14, c'est le jeu au pied. Bon, nous n'avons pas un jeu au pied assez, assez performant pour pouvoir rivaliser. Souvent dans le jeu, il faut voir que maintenant, on parle de jeu d'occupation, de pression, de déplacement, bon, etc. Il faut des joueurs qui soient très performants dans cette capacité à sans prendre trop de risques à déplacer le jeu vers le camp de l'adversaire sachant qu'il est plus facile de défendre quand on est loin de sa ligne que lorsqu'on est prêt hein.
Bon. Donc voilà. Encore beaucoup de travail à faire hein.
Bon, alors encore en beaucoup de travail mais moi je parierais une pièce sur le plan Laporte, qui a de bonnes idées, tant au niveau de la formation, avec la création d'un corps de conseillers techniques qui iront propager la bonne parole, qu'au niveau de l'équipe de France avait mis à disposition des joueurs un temps plus important, et puis la réduction du nombre d'étrangers avec l'obligation d'avoir 5 joueurs à l'avenir sur la feuille de match.
Eh bien, c'est bien, ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci, Christian, pour donc ces suggestions pour la suite et pour l'avenir. Merci donc, Jean-Loup. À très bientôt.
Oui, hein, à très bientôt.
On se retrouve naturellement la semaine prochaine, 10h-11h. On va remercier Victor d'avoir été une nouvelle fois ce matin aux manettes. Bon dimanche à toutes et à tous. À très bientôt. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnut.